pour une partie des prochains mois, j'envisage de m'attarder en prédication sur la première lettre de Jean. Et aujourd'hui, dans l'espoir de mieux rentrer dans cette lettre pour mieux vous faire sentir ce qui s'y joue, et donc une partie des enjeux pour les destinataires de la lettre, et pour nous aussi, je voudrais commencer par quelques flashs contemporains. Je commence par un témoignage. J'ai commencé ma vie chrétienne, la plupart d'entre vous le savent, en milieu évangélique pentecôtiste. Et j'étais alors très, très impressionné. Alors bon, c'est pas toujours comme ça dans les milieux pentecôtistes. Voilà. J'étais en tout cas très, très impressionné dans ce début de cheminement de vie chrétienne par les phénomènes que j'observais, notamment par le... Alors là, on ne le voit pas, parce qu'évidemment, c'est une image, mais par ce qu'on appelle le parler en langue, ou la glossolalie, c'est le même mot, mais en grec, hein, voilà. Et pour ceux qui ne seraient pas familiers, si c'était le cas parmi nous, ce sont des personnes qui, apparemment, parlent dans une autre langue que leur langue maternelle, sans avoir appris la langue en question. Voilà, comme si je me mettais à parler, je ne sais pas moi, ourdou ou quelque chose comme ça ce matin. Donc voilà, on parle de glossolalie, parler en langue. Oui, l'image n'est pas terrible, mais bon, c'est tout ce que j'ai trouvé. Enfin, j'ai pas trop cherché non plus. Mais... Donc en tout cas, ce phénomène, il est vécu dans le livre des Actes des Apôtres, puisque c'est ce qui se produit le jour de la Pentecôte, et c'est le type de phénomène qu'un contemporain, je crois, pourrait qualifier de paranormal. C'est-à-dire à côté de la normale. Ordinairement, on ne se met pas à parler ourdou, quoi. Surtout si on ne sait pas parler ourdou. Et à l'époque, alors c'est là que je veux en venir, je ne veux pas parler du parler en langue en tant que tel, mais à l'époque, c'était justement parce que c'était à côté de la normale, j'y voyais là une espèce de preuve de la vérité, de la foi chrétienne que je venais de découvrir, et une preuve qui était propre à convaincre, je dirais, en tout cas à faire réfléchir, même les plus sceptiques. Et je ne me suis pas privé de parler dans ce sens à mes personnes de ma famille, à des amis, des relations, en disant « Mais vous voyez bien, expliquez-moi ce phénomène-là, voilà. » Vous voyez bien que la foi chrétienne, c'est bon, quoi. C'est la vérité. Alors aujourd'hui, je vois cette attitude-là comme une attitude, excusez-moi, mais une attitude naïve. Parce que ce phénomène, le fait de parler dans d'autres langues, sans l'avoir appris, mais on le retrouve en fait dans bon nombre de peuples, d'expériences religieuses, dans bon nombre de spiritualités. On pourrait parler du chamanisme, je prends quatre exemples, hein. Du vaudou, on pourrait parler des religions traditionnelles, on pourrait parler du mormonisme, on pourrait parler aussi des pratiques qu'on trouve associées au spiritisme, par exemple. Alors, c'est des mouvements qui n'ont rien à voir avec les uns entre eux, ou pas beaucoup, mais c'est en tout cas des mouvements qui n'ont absolument pas la même vision du monde. Donc, tout ça pour dire que voir dans le fait de parler une langue inconnue une preuve de la singularité et de la vérité du christianisme, eh bien, je me dis aujourd'hui, eh bien, ça tient juste pas debout. C'est ce que je me dis à moi-même. Et ce que mon discours prouvait, c'était que j'étais juste ignorant, tout en pensant avoir des munitions imparables dans ma besace. Deuxième exemple, là aussi je suis sur des choses qui sont visibles, constatables. Je crois qu'on pourrait dire la même chose de phénomène de guérison. Je crois que ce serait de l'ignorance ou de la naïveté que de penser que les guérisons dites miraculeuses sont une spécificité chrétienne qui met vraiment le christianisme à part de tout le reste. Parce que les guérisons, elles peuvent être totalement laïques. Je pense au cheminement de ce psychanalyste qui était atteint d'un lymphome, d'un cancer de type 4, et qui, pour, entre autres, pour s'en sortir, a utilisé un processus de visualisation créative, je cite, donc qui a écouté tous les jours, qui s'est mis à l'écoute de ces cellules cancéreuses, et en les écoutant, il s'est mis à les écouter, et puis il leur a demandé de laisser de la place à d'autres cellules. Et il a été guéri. Et plus largement, on pourrait dire, voilà, je prends aussi des exemples. Alors, c'est pas forcément des exemples, deux sont pas très récents. On pourrait parler plus largement du développement personnel. On pourrait parler du mouvement Maïkari, qui est peut-être pas très connu. Mais on voit d'ailleurs une partie ici. La lumière divine, je cite, organisation supra-religieuse, donc on dépasse les religions, de la véritable lumière. On pourrait reparler du chamanisme, on pourrait parler aussi, alors ça c'est les choses plus anciennes, mais de l'antoinisme, ça c'est le père Antoine, enfin c'est le père Antoine, c'est vers le nord de la France, ceux qui sont de l'île. Voilà. On pourrait parler de la science chrétienne, qui n'est pas très répandue en France, et qui n'a probablement pas grand-chose d'une science, et en tout cas pas grand-chose de chrétien, mais, bon, mais voilà, c'est le nom du mouvement, qui est issu d'ailleurs de milieux évangéliques, enfin, d'une certaine influence évangélique aux États-Unis, enfin, peu importe. Donc tout ce que je veux dire en donnant ces exemples, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément d'être chrétien, et d'être chrétien traditionnel, pour connaître des guérisons, pour connaître des bouleversements efficaces. Et parfois, ce qui se passe, les expériences sont plus efficaces que dans la foi chrétienne traditionnelle. Donc tout ça pour dire que l'appel, même l'appel au nom de Jésus n'est pas une garantie. Je lisais la semaine dernière en préparant cette prédication, le récit par exemple d'un exaucement de prière faite à Jésus par 3000 personnes, en faveur d'un intervenant qui devait venir, mais il était malade. Et là, on est en milieu mormon. Voilà. Le nom de Jésus est invoqué donc en milieu mormon. Il est invoqué aussi par des guérisseurs, voilà, qui sont aussi chrétiens que moi, je suis bouddhiste, c'est-à-dire pas du tout. Voilà. Donc tout ça, il se passe des choses un peu partout, en dehors des églises chrétiennes, etc. Je passe à des témoignages qui peuvent être impressionnants. Je me rappelle être allé écouter quelqu'un que je dirais qui était médecin, et je le qualifierais de charismatique. Alors, mais charismatique, je parle là de son impact oral, de sa facilité de communication, du rayonnement qui était le sien, si je puis dire. La sincérité, la force qui émanait de lui. Et puis son discours, son témoignage, c'était ben, « j'avais une vie qui était pleine de problèmes, je m'en sortais pas, j'étais déprimé ». J'étais obèse, j'étais suicidaire, et puis voilà, j'ai rencontré la lumière, la vérité, et maintenant ma vie est transformée, je suis heureux, j'ai épanoui, j'ai un travail, une famille, ben, je suis un autre homme, etc. Une autre personne que j'ai rencontrée, avec qui j'ai échangé, c'est pas du tout familier, parce qu'elle n'a pas eu du tout de rayonnement, mais elle témoignait, elle était en train de lire la Bible. Et tout d'un coup, elle dit, ma main s'est posée sur un verset, comme ça, sans que je contrôle. Et puis, j'ai compris que ce verset parlait de moi. Ou bien, dernier témoignage, j'étais sur le point de me suicider. J'avais tout préparé pour me suicider. Et puis, à ce moment-là, on a frappé à la porte. J'ai ouvert. Et puis, quelqu'un était là avec une Bible, m'a présenté la Bible, et je me suis converti. Alors chaque fois, je vais dire d'où ça vient ces témoignages, chaque fois l'évidence d'une intensité d'expérience, d'un moment intense où la personne a reçu la lumière, si je puis dire, a été bouleversée, a été transfigurée, transpercée. Les exemples que j'ai pris, ben, le premier vient de la scientologie, le deuxième vient d'un groupuscule de la région de Salon de Provence où j'ai été pasteur, où j'ai passé 2 ans. Et le dernier exemple, c'est un témoignage venant des milieux témoins de Jéhovah. Et donc j'en arrive après ces expériences qui peuvent être frappantes, justement, et je les cite parce qu'elles nous interpellent. Les bavardages, c'est bien gentil, mais les expériences... Mais si on dépasse les phénomènes et les témoignages, il y a évidemment les prétentions qui sont associées à ces phénomènes, à ces témoignages. Prétentions à la vérité, à se rattacher à Jésus-Christ, au véritable, pur et simple évangile de Jésus-Christ. Je cite un texte mormon. Il y en a, alors il y en a, vous pouvez, enfin, voilà, vous cherchez le vrai Jésus-Christ sur Internet, vous allez en trouver beaucoup. Il y a parmi d'autres l'église du véritable Jésus. Alors vous voyez, c'est pas ici. Hein. Qui, elle, nous vient de Chine, l'église, hein, pas Jésus. Et puis, mais ce n'est même pas la peine de verser dans l'exotisme, si je puis dire. C'est comme ça que le titre le journal. Mais lors de la parution de l'encyclique Dominus Iesus, le journal La Croix a titré « Rome rappelle que l'Église catholique est la véritable Église du Christ ». Je dirais, mais vous savez, enfin, je dis qu'il y a des catholicismes, comme il y a des milieux orthodoxes, comme il y a des milieux protestants. Et parmi des millions, d'autres discours analogues, mais là, dans quelque chose de moins, que j'estimerais moins respectable, je lis sur un site internet la chose suivante. Des milliers de dénominations religieuses prétendent suivre Jésus-Christ, cependant, elles enseignent des évangiles différents. Jésus-Christ est-il le chef de toutes ces dénominations? Existe-t-il une authentique Église de Dieu qui soit en marge de cette Babylone religieuse? Comment reconnaître la véritable Église de Dieu? Voilà. Et évidemment, c'est là. Voilà. Sauf que voilà, le mouvement me semble assez éloigné du christianisme. Mais évidemment, je ne suis pas dedans. Donc. Bon, tout ça pour dire que chacun voit Jésus à sa porte. Autant de mouvements religieux, j'exagère un peu bien sûr, mais autant de mouvements religieux, autant de portraits de Jésus, et il paraît un petit peu difficile de savoir à quel saint se vouer. Et la grosse difficulté de notre époque, surtout aujourd'hui avec Internet et autres, c'est que c'est trop, quoi. Voilà. Alors si vous, tout ça pour nous mettre un petit peu dans une certaine ambiance. Si vous vivez un peu à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, je crois qu'en fait, rien de tout ça ne devrait vous étonner. Mais ceci dit, ça peut rester ou ça peut être assez déstabilisant. Beaucoup déstabilisant. Et peut-être, me suis-je dit, mais peut-être je me suis trompé, comme d'habitude, peut-être que je crois que si nous ressentons un petit peu ou beaucoup de déséquilibre, peut-être que c'est pas si mal, peut-être que ça vaut la peine, parce que ça nous permettra précisément de ressentir un petit peu ce qui se joue dans la première lettre de Jean. Le climat dans lequel cette lettre est écrite, et d'entendre du coup ce qui nous est dit dans cette lettre. Je lis le début de la première lettre de Jean. Si vous avez une Bible, méfiez-vous, là, il y a l'évangile de Jean et la première lettre de Jean. Donc si vous prenez l'évangile de Jean, ça ne va pas marcher. Si vous prenez c'est plutôt à la fin, presque à la fin du Nouveau Testament. Je projette le texte. L'auteur commence bien en tête, il dit même pas qui il est, etc. Voilà. Il dit « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. » Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Deux mots d'explication. Celui qui est la vie, comme le fait apparaître le verset 5, on a deux expressions identiques, analogues. Le message de, nous vous annonçons le message de, mais celui qui est la vie, c'est Jésus-Christ. Et puis, le commencement dont il est question ici, mais c'est le commencement du ministère de Jésus-Christ. Donc tout ça, Jean le dit dans un climat que je crois en partie analogue au nôtre. Il faudrait lire l'ensemble de la lettre, je ne vais pas le faire, pas maintenant. L'Église à laquelle il écrit est très déstabilisée, elle est très, très troublée. Il est question au chapitre 2, on le voit bien en particulier au chapitre 2, il est question au chapitre 2 d'adversaires du Christ qui ont quitté l'Église. Donc ils y étaient pendant toute une époque, mais maintenant ils ont quitté l'Église, c'est verset 19. Le problème, si je puis dire, c'est que leur influence reste très, très sensible. Ils se prétendaient chrétiens. L'enjeu est là. Ils avaient un regard, une vision du Christ. Et le portrait qu'ils avaient fait de lui dans l'Église restait là, restait tenace. Et on se posait des questions, mais Jésus, c'est qui? Parce que quand on entend des choses contradictoires, on se pose des questions. Qu'est-ce que Jésus avait vraiment dit? Qu'est-ce que Jésus avait vraiment fait? Est-ce que c'est eux qu'il fallait écouter? Ou est-ce que c'est eux? Comment j'arbitre, moi, entre les deux? Je lis deux extraits du chapitre 2. C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Qui est le menteur? Qui est le menteur? Celui qui nie que Jésus est Christ. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. C'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. Et voici la promesse qu'il vous a faite, la vie éternelle. Donc des gens qui vous entraînent dans l'erreur et des questions de mensonge. Alors la situation, c'est qu'à l'époque de Jean, il n'y avait pas tout ça, quoi. Il n'y avait pas tout ce que je projette derrière. Il n'y avait pas la floraison de mouvements religieux qui existent aujourd'hui. Il y en avait d'autres. Hein, je ne vais pas dire rassurez-vous, mais il y en avait d'autres. Mais ce qu'il faut surtout mesurer, c'est que les chrétiens à qui Jean écrit ne vivent pas les choses là de manière très, très extérieure. Bon, le chamanisme, moi, je n'ai jamais rencontré de chaman. Enfin, c'était pas marqué là, je ne l'ai pas vu. Voilà. Moi, je sais que ça existe, maintenant, c'est un peu un autre monde que mon quotidien. Mais les chrétiens à qui Jean écrit ne vivaient pas les choses de manière extérieure comme ça, comme dans ce petit panorama que je vous ai proposé. Parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé au sein même de la communauté. Et dans cette communauté, certains avaient dit « Jésus est le Christ » et certains avaient dit « Non, non, Jésus n'est pas Christ ». Et Jean disait « Jésus est Christ ». Et on est aussi à une époque, quelqu'un tout à l'heure, je pense remercier Dieu pour la liberté qu'on a de se réunir en France, c'était pas... le christianisme peut se réunir en France, mais à l'époque de Jean, le christianisme n'était pas aussi répandu dans la société, et puis les chrétiens se retrouvaient en petits groupes et se retrouvaient dans des maisons. Et en plus, le christianisme ne s'était pas fracturé en des rameaux qui sont bien identifiés. Oui, on sait que le catholicisme en France, on se dit, voilà, côté catholique, on peut repérer ce que c'est. Côté protestant, on a une idée aussi générale de ce que c'est, même si on est complètement extérieur. Donc il y a des familles qui sont repérables, dont on peut se faire une idée. À l'époque, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. À l'époque, vous vous rendez compte, il n'y a pas la radio, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les journaux. Enfin, on vit dans un village, et puis des gens amènent la foi chrétienne et se réunissent. Donc on vit dans un monde où le christianisme est ultra minoritaire, si je puis dire, où la foi chrétienne ne va pas de soi. Et donc d'une ville à l'autre vont petit à petit se développer des petits groupes. On estime que les premières églises se réunissaient dans des maisons de particuliers. Et donc, fouille archéologique, voilà, on voit quelle taille ça a. C'est maximum 30-50 personnes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est en prise directe avec des personnes qui dressent des portraits divergents de Jésus. Donc, ce n'est pas le Jésus made in China ou made in America qu'on rencontre en cliquant sur Internet de manière anonyme. Ce n'est pas ça. Le Jésus dont on parle, c'est le Jésus dont parle François, dont parle Irène, qui fréquente l'Église. François et Irène, qu'on connaît, ils s'assoient là quand ils viennent, ils ne s'assoient plus tout de ce côté-là. Ce n'est pas simplement qu'ils s'assoient là, c'est nos voisins dans le village, c'est nos voisins dans la ville. Ils font partie de ce petit nombre de chrétiens qui sont dans la région. Donc déjà, il n'y en a pas beaucoup, alors on ne va pas commencer à se taper les uns sur les autres. Mais voilà. Donc ce n'est pas l'inconnu qu'on croise au hasard d'un surf Internet ou bien des réseaux sociaux, c'est pas ça. Ou bien sur le stand du marché, quelqu'un qui est là. Donc quand on se pose la question « Jésus est-il Christ ?» Eh bien, s'il y en a un qui dit A et l'autre qui dit le contraire, qui c'est qu'il faut croire, quoi. Et puis je voudrais aussi vous rendre attentif qu'à l'époque, on n'a pas la Bible comme on l'a aujourd'hui. C'est-à-dire, on a tout au plus à l'époque des petits bouts de Bible. Et quelqu'un l'a dit, oui, c'est toi, je pense qu'en priant tout à l'heure, a dit, ben, merci Seigneur, on sait lire. Oui, oui, ben oui, justement, à l'époque, il y a peut-être, je crois que c'est 5% de la population qui sait peut-être lire. Du coup, quand la question se pose, mais le Christ, c'est qui? Eh ben, à quel saint se vouer? Comment trancher? Qui a les moyens de le dire? Donc, à l'époque de Jean, j'essaie de ramasser tout ce que j'ai dit jusque-là, il n'existe pas encore l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, l'Église catholique ou les différentes églises catholiques, l'Église orthodoxe, l'Église protestante, l'Église évangélique, l'Église protestante évangélique, l'Église évangélique protestante. Mais la question de la vérité, la question du vrai Jésus, si je puis dire, elle se pose déjà dans la première génération chrétienne. Et celui qui est familier de l'histoire du premier christianisme sait que ce n'est pas une époque qui est en manque d'expérience, de miracles, de témoignages bouleversants. Ça, c'est vrai à toutes les époques. Donc, qui peut dire qui est le vrai Jésus? Je vais aller un petit peu plus vite. D'accord, Jean, tu nous dis que le menteur, c'est celui qui nie que Jésus est Christ. D'accord, mais moi je me demande si ce n'est pas toi le menteur. Je crois que quand on ressent un petit peu tout ça, je crois que ça permet de faire sentir toute l'importance de plusieurs des mots du texte qu'on lit peut-être sans mesurer la portée, l'intention qui les habite. Et ce sont des mots qui, on pourrait y être attentif, parce que ces mots, ils reviennent, et ils reviennent à plusieurs reprises. Ils reviennent, moi je dirais, de manière insistante. Trois fois, nous l'avons entendu. Trois fois, nous l'avons vu, de nos propres yeux, précise-t-il. Et nous en parlons en témoin. C'est la même chose. Nous l'avons contemplé. Nos mains l'ont touché. Donc c'est du témoignage direct, c'est de première main, c'est le cas de le dire. Et si on surligne tout ce langage dans le texte, je vous invite à voir la place que ça prend, je crois qu'on entend là quelqu'un qui nous dit « Mais quand je parle de Jésus, je sais de quoi je parle. J'y étais. Je sais de qui je parle. » Je crois qu'il faut entendre derrière ça que les autres, ceux qui disent être chrétiens, alors ils sont peut-être extrêmement sincères, la question de la sincérité n'est peut-être pas en cause, ceux qui prétendent vous dire tout ce que vous voudrez savoir sur Jésus sans avoir osé le demander, sur le vrai christianisme, eh bien ceux-là, ils n'y étaient pas. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils se trompent. Quand on dit qu'ils se trompent, parfois c'est juste qu'on fait une erreur, mais c'est se tromper soi-même aussi que j'entends derrière. Ils se trompent peut-être sincèrement, ils se trompent eux-mêmes, ils vous trompent. Pour ma part, écrit Jean, je sais qui était Jésus. Parce que je l'ai vu, parce que je l'ai entendu, j'ai parlé avec lui, j'ai vécu avec lui, j'ai mangé avec lui. J'ai cheminé avec lui, j'ai entendu ses paroles, et j'ai appris de lui qu'il n'est ni plus ni moins, ou plutôt pas moins, que la vie éternelle. J'ai appris directement de lui qui il était, ce qu'il a fait, et je l'ai reçu de lui, je l'ai reçu directement. Je fais une petite parenthèse qui nous éloigne de la lettre de Jean, mais ce n'est pas vraiment un éloignement. Si on lit le Nouveau Testament, on se rend compte que Jean n'est pas le premier, le seul témoin à faire valoir cette situation unique qui est celle du témoin et qui l'accrédite pour parler de Jésus. Je lis, par exemple, dans la deuxième lettre de Pierre, mais c'est exactement le même enjeu qui est là. Nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance. Mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque, dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé, qui fait toute ma joie. » Or cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes, puisque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Ceux qui sont familiers, un petit peu familiers des évangiles savent que c'est une référence au récit de la Transfiguration qui est raconté dans les évangiles. Et je prends aussi l'exemple de l'apôtre Paul. Alors l'apôtre Paul n'a pas vécu avec Jésus comme les autres, puisque c'est après qu'il est devenu chrétien. Mais l'enjeu me semble en partie le même, puisque dans le contexte de la polémique avec un christianisme qui présente une figure trop juive de Jésus. Parce qu'il y a, voilà, il y a différents types de portraits de Jésus, mais il y a des portraits qui sont trop juifs, si je puis dire. Et pourtant, ouais, on dirait, on a parlé aussi d'Israël, enfin plusieurs ont parlé d'Israël, bon, je ne vais pas rebondir dessus, mais dans le judaïsme de l'époque, on pourrait dire, mais ce n'est pas une hérésie quand même. Mais Paul, pourtant, quand il est devant ces portraits trop juifs de Jésus, il emploie des mots qui sont avec une vigueur impressionnante. Si quelqu'un nous présente un autre message, un autre Jésus, même si c'est un ange qui du ciel venait l'annoncer, bon, écoutez, j'ai pas vu beaucoup d'anges dans ma vie, enfin je sais pas, peut-être que j'en ai vu, mais si, bon, s'il y a un ange qui m'apparaît là, quelque part, ça en jette, quoi. Même si c'était un ange qui vient l'annoncer, et même à grand renfort d'expérience intense, Paul dit qu'il soit maudit. Je crois qu'on touche ici du doigt l'importance unique de ceux que nous appelons les apôtres. Et je pense que c'est très important de toucher du doigt, de toucher de l'être, parce que quand on lit ce texte de la première de Jean, on sent tout l'enjeu qui est attaché à l'enseignement qu'ils ont transmis. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. Et l'enjeu, la promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. Alors vous me direz, à juste titre, peut-être, enfin, vous me direz peut-être, et si vous le dites, vous le direz à juste titre, que probablement ça ne résout pas tous nos questionnements, puisqu'aujourd'hui, j'ai commencé, ben oui, un bon nombre de mouvements religieux aujourd'hui se réclament du véritable, du vrai, du pur héritage de Jésus. Yes. Mais voilà, ce matin, je m'en tiens à la mise en valeur de ce principe. C'est que dans le foisonnement religieux de ce monde, dans la multitude des portraits de Jésus qui est là, que je sois chrétien ou que je sois en quête, si je veux savoir qui est Jésus, eh bien, je me mettrai à l'écoute de ceux qui en ont été les témoins directs. Enfin, c'est ce que je propose. Je me tiendrai à l'écoute du témoignage qu'ils ont laissé, à l'écoute de ce qu'ils ont transmis, de ce qu'ils ont enseigné. Et je reviendrai sur la question la prochaine fois. Donc là, je m'en tiens juste à ça, le reste, j'y reviendrai la prochaine fois. À l'écoute de ça, parce que c'est là qu'est annoncé le message de celui qui est la vie, de celui qui était dès le commencement. Je serai très attentif à ça parce que les apôtres l'ont entendu. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Ils l'ont contemplé, leurs mains l'ont touché. Et ils nous en parlent en témoin. Et ils nous annoncent, à nous aussi aujourd'hui, la vie éternelle, qui était auprès de Dieu et qui s'est manifesté tactilement, visuellement, auditivement pour nous. Il nous l'annonce pour que nous jouissions de la communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. La prière, c'est que ce soit notre partage à chacun d'entre nous. Je vous invite à prier. Seigneur, si l'Église se réunit aujourd'hui, je dis l'Église en pensant à cette communauté, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communautés chrétiennes dans le monde. Si l'Église se réunit aujourd'hui, c'est parce qu'à l'origine, tu es venu dans ce monde, tu as pris chair et tu as appelé à toi, tu t'es fait connaître. Charnellement, physiquement, tactilement, auditivement, et que cela est relayé jusqu'à nous. Seigneur, qui que nous soyons, où que nous soyons des personnes familières de la foi chrétienne, que nous soyons des personnes qui sommes en recherche, en quête de sens, en quête d'espérance, en quête de vie. Seigneur, je prie que tu nous trouves à ton écoute, à l'écoute des témoignages qu'ont laissés ceux qui étaient là à l'époque. Et ces témoignages nous rejoignent aujourd'hui. Que ta parole, Seigneur, nous touche, nous interpelle, nous rattache à toi. Amen.
Merci Laurent. Pour clôturer ce culte et pour faire écho aussi à ce que vient de nous présenter Laurent, je lirai deux versets dans Matthieu, au chapitre 17, les versets 7 et 8. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux, en disant : relevez-vous et n'ayez pas peur. Et le verset d'après. Alors, ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine.